De Naufle à Saint-Michel.
Un matin de début de juillet, bien avant l'aube, Jean de Cressé entra dans la chambre de sa sœur. Le jeune homme tenait une chandelle qui fumait. Il s'était lavé la barbe et portait sa meilleure cotte de cheval. « Lève-toi, Marie, » dit-il. « Tu pars ce matin, Pierre et moi nous allons te conduire. » La jeune fille se dressa sur son lit. « Partir ? Comment cela ? C'est ce matin que je dois partir ?» L'esprit embrumé de sommeil, elle regardait son frère de ses grands yeux bleus sombres fixement sans comprendre. Machinalement, elle ramena par-dessus son épaule ses longs cheveux épais et soyeux où passaient des reflets dorés. Jean de Cressay contemplait sans plaisir la beauté de sa sœur, comme si cette beauté eût été l'image même du péché. « Fais un paquet de thé hard, car tu ne reviendras pas de sitôt ici. » « Mais où me conduisez-vous ? » demanda Marie. « Tu le verras bien. »
« Mais hier, pourquoi ne m'en avoir rien dit hier ?»«
Pour te donner le temps de nous jouer encore un tour à ta façon. Allons, hâte-toi. Je veux être en chemin avant que nos cerfs nous voient. Tu nous as assez couverts de honte. Point n'est besoin qu'ils jasent davantage. »
Marie ne répondit pas. Depuis un mois, sa famille ne la traitait pas d'autre manière, ni ne s'adressait à elle sur un autre ton.
Elle se leva, un peu alourdie par sa grossesse, dont le poids, si modéré qu'il fût encore, la surprenait toujours au saut du lit. À la lueur de la chandelle laissée par Jean, elle se prépara, se passa de l'eau sur le visage et la poitrine, noua rapidement ses cheveux. Elle s'aperçut que ses mains tremblaient. Où l'emmenait-on ? Dans quel couvent ? Elle mit à son cou le reliquaire d'or que Guccio lui avait donné et qui venait, lui avait-il dit, de la reine Clémence.
« Jusqu'à ce jour, ces reliques m'ont bien peu protégée, pensa-t-elle. Les ai-je mal priées ?»
Elle plia ensemble une robe de dessus, quelques robes de dessous, un surcot et des toiles pour se laver. « Tu te couvriras de ta cape à grand chaperon, » lui lança Jean qui rentra un instant dans la chambre.
« Mais je vais périr de chaleur, » dit Marie. « C'est une vêture d'hiver. »
« Notre mère veut que tu chemines le visage caché. Obéis et hâte-toi !»
Dans la cour, le second frère, Pierre, sellait lui-même les deux chevaux. Marie savait bien que ce jour devait arriver. Dans un sens, quelque angoisse qu'elle eût au cœur, elle ne souffrait pas tellement. Elle en était presque à souhaiter ce départ. La tristesse d'un couvent lui paraissait chose plus supportable que les griefs et les reproches journellement ressassés. Au moins, y serait-elle seule avec son malheur. Elle n'aurait plus à subir les fureurs de sa mère, alitée depuis que le drame avait éclaté et qui maudissait sa fille chaque fois que celle-ci lui portait une tisane. La grosse châtelaine était alors prise d'étouffement, et l'on devait appeler d'urgence le barbier de Naufle pour qu'il lui tirât une pinte de sang noir. Cela faisait 6 fois en moins de 2 semaines que l'on saignait d'Amélia Belle, et il ne paraissait pas que ce traitement accélérât son retour à la santé. Marie était traitée par ses deux frères, par Jean surtout, comme une criminelle. Ah, certes, plutôt le cloître, 1000 fois, mais au fond d'une clôture, pourrait-elle jamais avoir des nouvelles de Guccio ? C'était là son obsession, sa véritable crainte du sort qui l'attendait. Ses méchants frères lui affirmaient que Guccio avait fui à l'étranger. « Ils ne veulent point me l'avouer, se disait-elle, mais ils l'ont fait mettre au cachot. Il n'est pas possible qu'il m'ait abandonné. Ou bien alors... Il est revenu dans le pays pour me sauver, et c'est pourquoi mes frères mettent tant de hâte à m'emmener, et après cela ils vont le tuer. Ah, que ne me suis-je sauvé avec lui !»
Son imagination lui représentait toutes les formes possibles de catastrophe. Elle en venait par instant à souhaiter que Guccio se fût réellement enfui, la laissant à son mauvais sort. Privée d'aucun conseil, et même d'aucune compassion, elle n'avait d'autre compagnie que celle de son enfant à naître. Or, cette existence-là ne lui était que de petits secours, sinon pour le courage qu'elle lui inspirait. À l'instant de partir, Marie de Cressay demanda si elle pouvait dire adieu à sa mère. Pierre entra dans la chambre de Dame Amélia Belle. Au cri poussé par la veuve, à qui les saignées n'avaient pas encore ôté toute la voix, Marie comprit l'inutile de sa démarche. Elle m'a répondu qu'elle n'avait plus de fille, dit Pierre de Cressay en revenant. Et Marie pensa une fois de plus: « J'aurais mieux fait de m'enfuir avec Guccio, tout cela est ma faute. Je devais le suivre. »